CKUT's Community News Department at 514-448-4041, extension 7000, or newsintern at ckut.ca. Also, you can follow us on Instagram at Off the Hour, or connect with us on Facebook. Search for us on CKUT. Stay tuned for Cafe coming up next.
The following is a previously broadcast program.
Café, votre émission d'art et culture du vendredi. Ici Esther Bourdage au microphone. Cette semaine, nous vous proposons de très belles suggestions, comme à tous les vendredis. Alex Allard reçoit Philippe Némé-Nombre, avec qui elle discute de son premier livre, 16 temps noirs pour apprendre à dire quoi, qui aborde les possibles solidarités et communs entre communautés noires et autochtones. De mon côté, bien, je vous propose un peu d'art médiatique, d'art visuel. Je suis allée au Centre d'artistes Père de Signal. Il y a une très bonne exposition qui est en cours jusqu'à demain.
Toujours sur les ondes de CKUT, c'est Alex qui vous parle pour votre émission d'art et de culture du vendredi soir, Café. On vient tout juste d'entendre la très douce pièce Sario du compositeur japonais Meitai. J'aime particulièrement écouter cet artiste qui tente d'encapsuler une certaine nostalgie d'un folklore japonais en train de disparaître durant le printemps. Personnellement, je trouve que ces sons oniriques créent des brèches dans un temps toujours plus maussade qu'on ne le voudrait, et il apaise ma tête lorsque le vent brise mes rêves de soleil langoureux, comme ça l'a été le cas toute la semaine. J'avais donc envie de partager avec vous cette pièce. Sinon, sur un tout autre thème et sans plus tarder, je vous présente l'entrevue que j'ai réalisée avec l'auteur et sociologue Philippe Némé-Nombré, qui nous parle de son tout récent livre qu'il a écrit, « Ceste en noir pour apprendre à dire quoi ». Philippe Némé-Nombré, bonjour!
Allô!
Très contente que tu aies accepté mon invitation en ce dimanche après-midi. Nouvellement docteur en sociologie, d'ailleurs bravo pour ta thèse que tu as remis en mars, si je ne me trompe pas.
Oui, ben c'est ça, pas encore tout à fait docteur, il manque la soutenance, mais disons qu'il y a une bonne partie qui est faite.
Ah bon, ben j'espère que ça n'a pas été trop souffrant comme processus.
Non, mais tu sais, à la fin, t'as hâte que ça finisse, mais ça s'est bien passé.
Très bien. Alors, auteur de nombreux articles portant sur des questions de justice sociale et raciale, on te connaît d'ailleurs pour tes prises de position souvent radicales et nécessaires dans les médias comme Radio-Canada ou encore le journal Le Métro, pour ne pas les nommer. Sociologue, membre du comité de rédaction de la revue Liberté, vice-président de la Ligue des droits et libertés, membre du conseil d'administration de l'espace culturel Osgang Plaza et maintenant auteur. Toutes les raisons étaient bonnes pour t'inviter à l'émission, mais aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on discute de ton tout premier livre, « Ceste en noir pour apprendre à dire quoi », qui paraît cette semaine chez Mémoire d'Encrier. Ce livre illustre les proximités et les solidarités entre les communautés noires et autochtones du Québec, dans lequel on peut y lire des phrases telles que « Une auto-patrouille qui brûle est une promesse ». Veux-tu nous parler un peu de ton livre? Je vais arrêter de parler et te laisser un peu la parole. Qu'est-ce que tu nous proposes avec ce premier livre?
Oui, bien, tout simplement, en fait, la recherche de doctorat que j'ai faite, c'était pour essayer de combler, si on veut, ce qui m'apparaissait comme une lacune, c'est-à-dire que un peu partout en Amérique du Nord, on parle beaucoup des relations entre les communautés noires, les communautés autochtones. On parle aussi beaucoup du lien entre le racisme anti-noir et la colonisation d'occupation. Puis au Québec, c'est encore un sujet qui est très peu discuté, sinon pas discuté. Fait que moi, ce que je me suis dit pour ma thèse, c'était précisément d'explorer ces relations-là et de le faire dans le contexte du Québec. Pour le livre, ben ça va exactement dans la même direction, sauf que bon, c'est moins, disons, théorique, il y a moins de longueur à ce niveau-là, puis c'est beaucoup plus des petites scènes, des archives à partir desquelles je vais réfléchir, des anecdotes plus personnelles. Fait que c'est, si on veut, un mini-livre pour commencer ces discussions-là, voir un peu les possibilités de tout ça. Fait que c'est en lien avec mes recherches, mais présenté d'une manière beaucoup plus narrative puis beaucoup moins théorique. Fait que ça ressemble un peu à ça, finalement.
OK. Et est-ce que, justement, tu avais envie d'explorer les réflexions entre les liens entre racisme noir et assimilation autochtone? Tu parles qu'ailleurs en Amérique, c'est plus courant d'en parler. Comment est-ce que tu expliques ce retard qu'on connaît sur le territoire canadien et québécois?
Bien, c'est une bonne question. Je pense que une des explications possibles, c'est que au Canada et donc au Québec, on a tendance à considérer notre histoire sans y inclure l'histoire de l'esclavage. Bon, c'est un réflexe qui est assez commun, surtout que c'est assez facile de le faire quand on se compare à nos voisins du Sud. Là, c'est toujours plus évident de regarder les États-Unis, de voir l'importance qu'il y a eu l'esclavage. Fait que à partir d'ici, quand on pense à ce qui a structuré notre société, c'est assez difficile de voir l'expérience noire, le racisme anti-noir, l'esclavage dans tout ça. Fait que je pense que c'est une des raisons qui explique ça, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance, par exemple, à s'intéresser aux relations entre les communautés autochtones et la majorité, entre finalement les nouveaux immigrants, par exemple, et la majorité, mais ces liens-là fondamentaux entre les communautés noires et les peuples autochtones, c'est quelque chose qui sort finalement de notre cadre d'analyse puis de notre manière de comprendre notre histoire. Fait que je pense que ça, c'est une des premières choses. Et sinon, je pense que, c'est ça, je l'ai mentionné un petit peu, mais quand on regarde les États-Unis, il y a une facilité puis un réflexe qu'on a développé au Canada et au Québec de penser que le racisme existe surtout ailleurs. Surtout quand on parle ou quand on pense à des structures racistes. Ici, ça ne fait pas de sens de se dire que notre société peut être construite sur ce genre de dynamique-là, parce que c'est aux États-Unis que ça a été de même. Fait que je pense que c'est tout ça qui explique un peu pourquoi on ne s'y est pas vraiment intéressé, mais de plus en plus, on y arrive. Puis je pense que dans les milieux militants, on le voit aussi de plus en plus du côté des groupes antiracistes. Il va y avoir des liens, des proximités qui vont être créées avec des groupes autochtones et ainsi de suite. Fait que je pense que ça s'en vient. On a peut-être juste un peu moins, disons, réfléchi à ça depuis aussi longtemps qu'ailleurs en Amérique.
Mm-hmm. Très intéressant. Est-ce que toi, personnellement, tu as vécu ces solidarités-là que tu explores dans le livre, ou c'est vraiment encore... tout est une possibilité. Donc, au moment où on se parle, je n'ai pas encore lu le livre qui sort cette semaine. Donc,
Mais oui, mais je dirais que je les ai surtout vécues pour l'instant. Bon, évidemment, dans plusieurs moments de militance, ces questions-là vont se poser. Mais pour l'instant, je pense que ça a été beaucoup aussi des conversations avec des amis, avec des collègues, avec des camarades. Je vois qu'il y a une intention d'aller dans cette direction-là, et de part et d'autre, là, d'ailleurs. Puis, donc, je pense que c'est-à-dire on n'a pas encore les textes, les réflexions et, disons, un corpus pour ancrer ces solidarités-là, mais on les voit là, de plus en plus. Puis oui, moi, il y a beaucoup des réflexions là-dedans qui sortent tout droit de conversations que j'ai eues avec des militants, des militantes autochtones, c'est sûr.
Wow! OK. Puis effectivement, le possible part de discussions qui peuvent souvent sembler anodines, mais qui finalement, à force de discussions, créent des expériences qui vont créer des moments et ce livre. cette thèse que tu as remise il y a quelques mois à peine, dont on vient de parler, explore donc ces possibilités. Je me demandais... Par rapport à cette thèse, qu'est-ce que ce livre représente pour toi dans ton parcours? Et aussi, si tu veux aussi dévier la question et peut-être parler un peu de ta thèse?
Ouais, c'est une bonne question. Je me suis souvent posé la question parce que moi, pour moi, puis je pense pour beaucoup de gens aussi, l'idée de faire des études, l'idée de faire des recherches, l'idée d'écrire une thèse... c'est lié à la possibilité très concrète de changer les dynamiques dans la société, d'avoir disons, un impact. C'est pas de faire une thèse pour faire une thèse ou de créer des savoirs, de la connaissance pour créer des savoirs et de la connaissance. Fait à partir de là, d'une part, moi, ce que je souhaite et ce que j'ai, et c'est ce qui m'a animé pendant tout le long de l'écriture de cette thèse-là, c'est qu'elle a une certaine utilité. Fait que si je me dis ça, l'idée ensuite d'en faire ou d'en décliner un plus petit livre, quelque chose de plus accessible, quelque chose de moins, disons, compliqué, plus droit au but, ben ça vient directement de cette idée-là. Ça fait que je crois qu'il y a une manière, ou c'était en tous les cas, c'est une des manières que j'ai trouvé de ne pas garder, si on veut, cette thèse-là à l'état de thèse, puis d'en faire quelque chose dont on pourra discuter ensemble. Tu sais. Fait que c'est toutes les erreurs, toutes les brèches que j'essaie d'ouvrir, toutes les limites, finalement, ben, le but, c'est que les gens puissent revenir là-dessus, critiquer, penser à partir de ça. Fait que c'était ça, vraiment, l'idée du livre.
Mmh, ouais, dans l'établissement du dialogue, finalement.
Ça, exact, parce que sinon, ben, c'est un peu vain, finalement.
Mmh. Oui, c'est une belle façon de sortir de cette thèse très universitaire. Maintenant, pour parler un peu plus de la forme, sur la quatrième de couverture, on peut y lire « Les brèches et les fissures, les gestes militants et les imagination radicale se déplace, se replace, se recompose, s'ajuste. » On peut y lire ici une prose qui est plus lyrique, plus poétique que celle qu'on peut s'attendre d'un universitaire. Quelle est la place de la poésie dans ta démarche?
Alors, c'est drôle, juste pour ce qui est de la quatrième de couverture, c'est drôle parce que cette phrase-là, elle n'est pas écrite, visuellement, elle n'est pas présentée comme ça dans le livre, elle est présentée comme une phrase à la fin d'un paragraphe, mais... chez Mémoire d'Encrier, on m'a demandé si ça me tentait de la présenter comme ça sur la quatrième de couverture parce qu'effectivement, c'est une phrase qui a été écrite pour s'entendre. Fait que, juste pour dire très brièvement, là, c'était pas à prétention poétique, c'était pas écrit comme ça en vers, mais finalement, en le voyant de cette manière-là sur la quatrième de couverture, c'est ça que ça rend. Mais plus généralement, là, sur la forme, moi, ce que j'ai essayé de faire, puis ça, j'espère que ça va se sentir, que ça va se voir, c'est de me dire la forme doit convier le contenu. L'idée même doit être, disons, transmise à travers la manière de l'écrire puis à travers la manière de structurer ce qui est dit. Puis pour faire ça, étant donné que mon sujet, c'est les relations entre les communautés noires et les communautés autochtones, c'est-à-dire une rencontre, l'idée... que j'ai développé ou que j'essaie de développer dans le livre, c'est d'utiliser une méthodologie ou une méthode, là, plus généralement, qui ressemble à celle d'un DJ ou d'une DJ. Ça fait que l'idée de faire arriver, de partir d'un morceau puis d'arriver dans un autre morceau, c'est un peu ça que j'essaie de convier avec la structure du livre. Puis, bon, de manière très, très générale et imprécise, souvent, ça va être sur 16 temps. Ça va être sur 4 mesures. Bon, ça va pouvoir être sur plus, ça va pouvoir être sur moins, mais disons que si je prenais ce chiffre-là juste comme idée guide, ben ça me permettait de convier cette idée-là que tu prends un morceau, une musicalité, une pensée, peu importe, puis tu la fais arriver vers une autre, tu la fais dialoguer avec une autre pensée, avec un autre morceau, ben c'est un peu ça que j'essaie de combiner avec les 16 temps noirs pour apprendre à dire queer. Fait que l'idée, c'est de faire, si on veut, une espèce de mix, finalement.
Très nice. J'ai vraiment hâte de plonger là-dedans. Ça promet beaucoup. Qu'est-ce qu'on souhaite à quelqu'un qui écrit une thèse sur un sujet qui porte sur un possible aussi essentiel, soit le dialogue, les possibles dialogues entre personnes noires et autochtones?
Qu'est-ce qu'on souhaite? Ben, je pense que c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que j'aurais envie de dire on souhaite des critiques. Parce que pour moi, je pense que il faut sortir de cette idée-là que réfléchir longtemps à un sujet, ça implique nécessairement qu'on le maîtrise. Moi, l'idée, c'est vraiment de soumettre, finalement, tu sais, des interventions, des réflexions, mais aussi des erreurs. Puis je pense que si le but est concret et qui est effectivement d'améliorer les choses, ben ce qui est le plus utile, finalement, c'est d'être critiqué, d'être discuté, mais d'être critiqué aussi, parce que c'est comme ça qu'on crée collectivement quelque chose, on crée collectivement des idées, puis des méthodes, puis des stratégies pour un futur, des futurs qui sont décoloniaux, qui sont antiracistes et qui sont anticapitalistes. Fait que moi, je pense que c'est ça, finalement, que je souhaite, que je me souhaite, puis que je souhaite aux autres qui feraient quelque chose de similaire, c'est d'être critiqué et donc d'être plus utile, finalement.
Je nous le souhaite à nous, à tout le monde aussi. Et Parlons un peu des critiques, justement. Est-ce que qu'est-ce que tu attends des critiques des médias? Là, il y a un article qui est paru dans Le Devoir ce week-end qui parle de ton livre de façon très élogieuse. Est-ce que tu t'attends à des critiques plutôt élogieuses ou je sais pas, parce que ça soulève quand même des questions qui font quand même débat là, au Québec, notamment le racisme noir et autochtone là, qui est encore dénié par la CAQ.
Non, ben, je pense que non, c'est sûr que je ne m'attends pas à des critiques élogieuses parce que ben, je suis beaucoup trop angoissé pour ça, mais je pense que je m'attends à des critiques. Bon, je pense qu'il y a certaines personnes à qui ça va beaucoup parler, puis il y en a d'autres qui vont nécessairement recevoir, même avant de l'avoir lu, ce livre-là avec. Avec des critiques qui tiennent pas nécessairement au contenu du livre, mais plutôt à l'idée même de parler de ces enjeux-là au Québec. Puis ça, ben, je pense que c'est malheureusement inévitable aujourd'hui. Je crois que les personnes qui appellent au dialogue, qui appellent à la liberté d'expression, vont notamment être les premières à en avoir contre le sujet même de ce dont je parle et contre... Ben, éventuellement s'y rendent contre la manière d'en parler. Mais ça, je crois que c'est correct. Je pense qu'on trouve aussi des brèches dans les ruptures, justement. Fait que je crois que quand il y en a, quand il y a de la critique, c'est que, à quelque part, ben, ces conversations-là avancent.
D'accord. Tout à fait d'accord. Bien, merci beaucoup, Philippe, d'avoir pris ce moment. J'ai vraiment hâte de lire ton livre. Donc, je rappelle le titre, « 16 temps noirs pour apprendre à dire quoi », qui sort ce mercredi 27 avril dans toutes les librairies ou dans la majorité des librairies. Vous pouvez aller sur le site des libraires pour le trouver. Le lancement aura lieu ce jeudi 28 avril à la librairie Zone Libre, près de l'UQAM. On vous quitte en musique sur un choix musical de notre invité. On va entendre l'excellente DJ et productrice Kenyan, maintenant compositrice, avec la pièce Yi Iji. Je ne sais pas si je le prononce bien. Oui?
Je pense que oui.
OK. Yi Iji. Donc, j'ai pas dit son nom encore, hein? Coco M, donc, qu'on retrouve sur son premier album qui est paru cette année, l'album Kilumi. D'ailleurs, merci pour cette proposition musicale. Ça va être dans mes préférés cette semaine à écouter.
Ah, ben, je suis content d'entendre ça. Puis merci beaucoup pour l'invitation. Très content.
Merci à toi. Bonne semaine tout le monde. On se voit la semaine prochaine.
qui les donnait, à nous les donner.
Lorsqu'on ne paye pas pour un produit, on est le produit. Particulièrement dans le cas de l'hébergement des courriels et des sites web où les compagnies multinationales se battent pour les profits produits par les magnifiques communications de vos organisations. Kumbit est une coopérative de travail qui essaye d'aider les petites organisations ou les particuliers à se réapproprier leurs communications par l'hébergement de courriels et de sites web ainsi que par la création de sites web. Si c'est votre désir, contactez-nous à kumbit.org ou par courriel à info@kumbit.org, KOUMBIT.org. On n'est pas sur Facebook.
Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça.
Mais qu'est-ce qu'on mange?
Ni ça. Vous protège pas de ça.
De la pluie et encore de la pluie cette fin de semaine.
Ou ça. Ou même de ça.
Ne quittez pas. Votre appel est important pour nous.
Par contre, avec le vaccin, vous êtes protégé contre le virus. La vaccination, encore et toujours la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec.
Ici Esther Bourdage, au microphone, toujours à distance. Donc, il y a beaucoup d'expositions à voir ces temps-ci. L'art visuel se porte très, très bien. Je suis allée à Perte de Signal, ce centre d'artistes spécialisé en art numérique et médiatique, dans le pôle de Gaspé. Actuellement, il y a l'exposition qui s'intitule Fusis, qui rassemble un groupe d'artistes qui participent au programme Projet Émergent. C'est un programme parrainage initié par Perte de Signal, justement, qui a eu cours pendant plus d'un an. Et c'est fantastique, c'est à la croisée d'une résidence et aussi d'un mentorat. C'est une très belle initiative qui permet aux artistes émergents de la relève de se faire une place au sein de la communauté artistique. C'est pas toujours facile pour les jeunes gradués de trouver les outils, de trouver leur identité, même de trouver une scène. Tout ça, ça prend, n'est-ce pas? Donc, cette expo regroupe le collectif de Sam Bourgault, Emma Fogg, Nima Navad et Claude Pierriard. Actuellement, ils présentent le fruit de leur travail bien dans l'espace laboratoire de Perte de Signal. C'est très intéressant puisque nous sommes face à trois œuvres très différentes, mais qui se marient très bien dans un certain écosystème, dans un dialogue qui permet de tâter le pouls de la nouvelle, les nouvelles tendances en art cinétique. Et les œuvres en computing art et les œuvres numériques, médiatiques. Et c'est très intéressant. Cette semaine, les artistes ont discuté avec Alice Jarry et nous avons pu constater, nous avons pu écouter plus en détail les démarches artistiques de chacun. Et Alice Jarry justement soulignait le fait que chacun avait un peu un système et ouais, et c'est tout à fait une bonne façon de rejoindre ces trois œuvres. Les œuvres cinétiques, bien, c'est toujours des œuvres assez complexes qui possèdent leur propre langage, leur programme, soit électronique, électrique, informatique. Claude Pierriard qui présente une œuvre sonore et visuelle qui est tout à fait transparente, à savoir qu'elle présente son code pure data. Elle, c'est sa fonction, son système, c'est le pure data. Elle présente ça sans gêne, tout à fait transparent. Et son œuvre joue avec le vivant et ce n'est pas toujours facile, comme elle le mentionnait en dialogue cette semaine. Ouais, le vivant, elle utilise des micro-organismes. Et ces micro-organismes-là permettent d'actionner des patchs programmés. Donc, ce visuel-là, est capturé par sa couleur et relié à un patch Pure Data qui permet d'actionner toutes sortes de paramètres sonores, que ce soit des pulsations, que ce soit des segments plus ambiants. Claude Perriard, bien, elle est aussi connue comme musicienne sous le nom de Claude Lanthrope. Et à Café, bien, on la soutient bien, on joue régulièrement de ces pièces, que ce soit de la pop ou de l'électroacoustique. Et c'est toujours assez génial. Autre œuvre de l'exposition, bien, Nima Navad a développé une œuvre assez géniale, incroyable, je dirais. On peut voir une œuvre qui joue avec la température, qui joue avec l'eau, la vapeur d'eau. Et dans son approche artistique, bien, il s'intéresse beaucoup à ces éléments atmosphériques, à ces éléments qui sont difficilement tangibles, qui c'est difficile de calculer, de mesurer, tout ce qui est vapeur d'eau, tous ces composantes évanescentes qui s'évaporent, fait partie de ces composantes. Et donc, à Paire de Signal, vous avez une composition chorégraphique de vapeur d'eau, un peu comme un ballet mécanique, électronique, qui fait une danse assez incroyable, je dirais. Donc, les mouvements suivent une composition d'environ 20 minutes, et cette composition-là génère des mouvements que je pourrais dire chorégraphiques, puisque la vapeur d'eau, elle va dans plein de directions, et c'est une autre cinétique assez bien accomplie. Je vois ça un peu tel un prototype, puisqu'il y a beaucoup de potentiel à avoir une œuvre similaire d'une plus grande échelle. Ensuite, un autre élément, une autre œuvre de l'exposition, bien, c'est Emma Forgue et Sam Bourgo, qui s'intéresse beaucoup au vivant, au corps de l'être humain, d'une façon sensuelle, d'une façon déconstruite. Ça nous amène à réfléchir également sur le gender, sur les stéréotypes corporels. C'est une œuvre qui joue beaucoup avec des formes incongrues. On vit dans une société où le corps est vraiment mis à nu, vraiment surexposé. Eh bien, eux s'approprient cette notion de corps, mais de façon davantage poétique, davantage présenter une matière plus, pas plus froide, mais disons d'une façon contextuelle à présenter le corps un peu médical, je dirais, quelque part. Donc c'est une œuvre cinétique également. Et donc les trois œuvres s'intéressent au vivant, mais d'une façon tout à fait différente, quoi. Allez voir cette expo. Oui, voilà, le chat soutient à Paire de Signal. C'est jusqu'à samedi inclusivement. Je souligne que Paire de Signal est située à l'espace 107 dans le pôle de Gaspé, donc au 5445 de Gaspé précisément. Et vous allez être emballé par les trois artistes. Et bravo encore à Claude Perriard, Sam Bourgo, Emma Fogg et Nima Navad. Et pour continuer sur les expositions, bien, il y a l'exposition solo de Stan Douglas à la Fondation Fille jusqu'au 22 mai. Et vous pouvez placer à l'agenda, vous pouvez assister à une table ronde le 12 mai avec des spécialistes fort intéressants. Marissa G. Moorman, qui est docteur et professeur en études culturelles africaines à l'Université du Wisconsin-Madison, et Cadence Sauber, qui est docteur et professeur adjointe en études globales et internationales à l'Université Carleton. en dialogue avec la série Disco Angola. Ces deux invités présenteront leurs recherches sur l'histoire politique et la culture médiatique et sonore de l'Angola dans les années 70. Donc, c'est fort prometteur, vraiment. Et c'est à quelle heure? C'est à 19h, de 19h à 20h30. Donc, c'est un événement en ligne à ne pas rater, le 12 mai. Allez faire un tour également à la Fonderie Darling. C'est une exposition de groupes internationaux qui porte sur le théoricien des communications, Marshall McLuhan. J'aurai l'occasion de vous en parler davantage. Je suis allée voir l'exposition et c'est très, très chouette. Réservez-vous un bon 30 minutes, 45 minutes même, afin de pouvoir absorber et de pouvoir bien apprécier tout le parcours. Il y a beaucoup d'archives à regarder. Donc, c'est tout pour cette semaine. On va écouter une pièce, pourquoi pas, de Claude Lanthrope. Comme je mentionnais tout à l'heure l'artiste, je me suis dit, ben, pourquoi pas. On va écouter une de ses pièces qui s'intitule « Looking for an Outer World ». Écoutons également la clarinettiste et chanteuse Isabelle Dutoit. Superbe improvisatrice, vous allez adorer, qui s'est donnée en concert en août 2017 à Mulhouse, un lieu qui s'appelle la Fonderie Université. Elle jouait avec Il Sophie Tafshor au corps et à l'électronique. Bon vendredi et à la semaine prochaine. Au revoir.
Thank you. Bonjour tout le monde. Pour terminer cette émission en beauté ce vendredi, je vous fais écouter Dans la foule et si de Marilyn Léonard. Bonne soirée.
Don't give a shit about nothing. Je suis sur les réseaux pour ma vie. Ils prennent des photos, font des stories. Comme si on comprit c'est quoi la vie.
Je suis parti trop loin sur mon bateau. J'ai coulé trois fois, pas vu les drapeaux rouges. Non, cette fois-ci, je pense que j'ai pris la bonne. Cette fois-ci, c'est pas la même chose. Tu sacres au pilote sur la côte. Genre 24-7, we're going to heaven. J'entends sa voix dans la foule. C'est trop, je n'ai plus de doute. Je sais que j'ai tendance à mettre tous mes efforts dans ma carrière, mes chansons pour vivre de passion. Mais t'es la seule que je vois dans la foule. Je suis sur les réseaux pour ma vitrine. Ils prennent des photos, font des stories. Comme si on compris c'est quoi la vie. Je suis parti trop loin sur mon bateau. J'ai coulé trois fois, pas vu les drapeaux rouges. Ah non, cette fois-ci, je sais que j'ai pris la bonne. Cette fois-ci, c'est pas la même chose. Oh, I don't give a shit about it. Désagréable, j'ai beaucoup joué à l'infatigable. Je me suis paré de l'irréparable. Pour l'amour, j'ai mis le feu à la réalité. C'est les sous-vides, mon intégrité. Des croisières, toutes défenses payées. Qui aurait cru que j'étais si bête, si j'avais su que j'étais si frêle. Qui aurait cru que j'étais si bête, si j'avais su.
Amigos, bienvenidos a nuestra emisión quincenal, escuchando América Latina, aquí en CKUT 90.3 FM.
Les informaremos a ustedes sobre el arte, la cultura, poesía y turismo.
También tenemos deportes, información actual y mucho más.
América Latina, ¿eres tú?
América Latina es ella.
América Latina es él.
América Latina, somos nosotros.
Argentina,
Bolivia,
Brasil,
Chile,
Costa Rica,
Colombia,
Cuba,
Ecuador,
El Salvador,
Guatemala.
América. Honduras,
México,
Nicaragua,
Panamá,
Paraguay,
Perú,
República Dominicana,
Uruguay,
Venezuela.
América.
es la dueña de mi amor. Tiene el nombre de una flor.